Marseille Hip Hop 2014, état des lieux.
Samedi 1er et dimanche 2 mars,
un week-end hip hop sur les 3-8.
Plus d'infos sur le www.radiogrenouille.com.
De la femme exotique claustrée au corps critique libéré, enjeux et dilemmes des figures émancipatrices dans le rap et le R&B en France. C'est une communication de Karima Ramdani, communication lors du colloque Penser l'émancipation qui s'est tenu du 19 au 22 février à l'université Paris-Ouest Nanterre. Karima Ramdani est doctorante en sciences politiques à Paris 8. Son sujet de thèse a pour titre « L'histoire impossible des anonymes, expérience des femmes indigènes algériennes pendant la colonisation française 1830-1954 ». Ses travaux portent sur la déconstruction des représentations à l'encontre des femmes musulmanes, aussi bien dans un contexte colonial que post-colonial, notamment dans la culture, et en croisant les rapports de classe, race et sexualité.
Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je tiens à préciser que ma communication d'aujourd'hui, c'est une réflexion qui est menée depuis quelques années, mais qui est en parallèle de mon travail de thèse. Car mon travail de recherche en thèse est plutôt sur l'analyse des processus de subjectivité des femmes indigènes algériennes et les représentations à l'encontre de ces femmes durant la période coloniale, dans les discours et tout ce qui est iconographie, comme les cartes postales, etc. Donc c'est dans ce cadre que j'ai noté quelques analogies, notamment dans les processus d'objectivation des corps féminins durant l'esclavage et la colonisation plus tard. Objectivation, c'est-à-dire comme objet de savoir. La culture dans ces systèmes de domination a donc joué un rôle, selon moi, privilégié, notamment dans les processus de différenciation, notamment dans la formulation des normes féminines, pour le coup qui étaient racisées entre le dominant et le dominé. Or, les représentations datant de ces périodes semblent aujourd'hui toujours d'actualité. Selon Édouard Saïd, dans son ouvrage « Culture et impérialisme », il explique, je cite, « que nos formulations et représentations du passé déterminent nos perceptions et nos idées du présent ». Donc, cette communication portera sur la culture et son rapport au racisme en France, mais aussi avec le sexisme. Analyser donc le lien entre le racisme et la culture, le sexisme et la culture, c'est penser leur action réciproque, c'est étudier de quelle manière le racisme et le sexisme se renouvellent, évoluent et changent de forme. Pour mettre en avant l'ambiguïté de ces relations donc, entre culture raciste, culture et sexisme, je m'intéresse à la mise en scène des corps féminins dans le rap dit bling bling et le R&B. Le spectacle des féminités et les représentations de différentes figures féminines varient selon le type musical. Donc, pour cette recherche, disons, j'ai regardé beaucoup les vidéoclips de rap et j'ai aussi regardé les textes de chansons de rap et de R&B et les pochettes d'albums. On a donc deux corps féminins, un corps noir surexposé, hypersexualisé dans les clips de rap, une figure souvent appelée la bitch. Ce corps nu se dandine souvent donc autour de poteaux, caresse des murs, il est parfois mouillé ou en cage, etc. Et d'un autre côté, il y a un autre corps, entre guillemets, maghrébin, surreprésenté par l'abondance de chanteuses R&B maghrébines en France, comme à l'époque Wallen et aujourd'hui bon, Kenza Farah, Zao, Sheriff Aluna, etc. D'ailleurs, lorsqu'un journaliste demande à une chanteuse R&B qui s'appelle Mélissa, je cite, « En France, qui dit R&B dit Maghreb, pourquoi à ton avis ? Pourquoi les chanteuses R&B viennent-elles quasiment toutes du Maghreb ? C'est assez communautaire tout cela, non ?» Cette dernière lui répond que c'est une musique qui nous ressemble, c'est une musique très mélodieuse, il n'y a pas que des maghrébines. Donc la chanteuse ne donne pas plus d'éléments de réponse, alors que cette idée de ressemblance, selon moi, peut laisser perplexe, On peut se demander dans quelle mesure le R&B promouvrait de manière, disons, excessive des chanteuses d'origine maghrébine. Donc les représentations de ces deux figures s'appuient, selon moi, sur le thème inépuisable de l'exotisme. Comme stratégie de pouvoir, cette pratique permet de déshumaniser de manière pluridimensionnelle l'individu opprimé, économiquement, scientifiquement, mais aussi culturellement. L'individu ici n'est plus qu'un objet fantasmé, un objet de curiosité. Pourtant, il semblerait que dans ces musiques, la surexposition d'un corps féminin racisé aurait des vertus émancipatrices. Peut-on, comme semblent l'indiquer certains penseurs africains-américains, penser que la représentation du corps féminin noir dans les clips de rap serait une manière de réaffirmer une féminité noire déniée depuis l'époque esclavagiste? Peut-on faire ici du coup une analogie et penser de même pour les femmes maghrébines et voir cette surexposition des femmes maghrébines dans le R&B comme l'affirmation d'une féminité déniée, cette fois-ci durant la période coloniale? Les représentations de ces deux figures féminines nous permettent d'analyser des stratégies d'émancipation dans le domaine culturel et d'analyser comment la performance de clichés racistes et sexistes peuvent être vécues et expérimentées comme une tentative de libération. En quoi l'exaltation d'un certain exotisme peut être vue comme une stratégie de résistance? Quelles sont les valeurs propagées par ces styles musicaux, leur permettant de s'insérer dans la culture dominante, diffuse, commerciale et grand public? Le sociologue anglais Stuart Hall affirme, je cite, que la culture populaire est l'un des lieux où la lutte pour et contre la culture du puissant est engagée. C'est aussi le lieu de cette lutte. C'est l'arène du consentement et de la résistance. C'est dans ce sens qu'il parle de relations de représentation, où va se mener une lutte des artistes pour avoir aussi bien le droit d'accéder à la représentation, ici synonyme de visibilité, que de contester une image stéréotypée. Il s'agit de voir ici si, à travers l'instrumentalisation du corps des femmes noires dans les clips de rap et des femmes maghrébines dans le R&B, on peut parler d'une stratégie de résistance. Car en effet, il y a des effets pervers, notamment sur la sexualisation de corps racisés, m'amenant à m'interroger sur les limites de ces résistances et s'il n'est pas plus pertinent de parler d'agency, capacité d'agir, pour des groupes ou individus qui ne sont pas dans un processus de remise en cause des normes, mais plutôt de les inverser. Dans un premier temps, j'évoquerai de quelle manière les représentations des femmes noires dans les clips de rap peuvent prendre des aspects émancipateurs d'une communauté qui se réapproprie son histoire. Puis dans un deuxième temps, je m'intéresserai à la figure de la chanteuse R&B en France comme modèle d'émancipation réussie. Je terminerai enfin cette communication en reprenant cette idée de Stuart Hall d'arène de la résistance et du consentement, en interrogeant donc ce concept d'agency, nous permettant ainsi de sortir du paradigme résistance-soumission et de mieux comprendre les stratégies identitaires de chacun des groupes. Donc je vais commencer par la stratégie des Africains-Américains, ce « Black is beautiful », d'observer l'usage et l'image de la bitch dans ce processus-là. Donc plusieurs facteurs explicatifs sont énoncés par des théoriciennes comme Patricia Hill Collins ou Trisha Rose, Bell Hooks, quant à la surexposition des femmes noires par les hommes noirs. Cela permettrait de montrer qu'elles sont belles et bonnes et contredire ainsi l'image de la femme esclave musclée. C'est aussi une tentative de résistance à une norme féminine dominante de femmes au corps fin, longues jambes, peau claire, petites lèvres, comme les mannequins dans les magazines. Depuis donc l'époque esclavagiste, on remarque différentes représentations à l'encontre des femmes noires que Patricia Hill Collins énonce. Très schématiquement, je vais donner quelques images. Celle de la mama, donc de la mère et de la ménagère. Celle de la femme musclée qui travaille dans les champs au même titre que l'homme esclave, donc ça permettait de justifier son rôle et son travail dans les champs. Et la Jézabel, donc la femme aux mœurs dites légères, la salope. Aujourd'hui, on peut la comparer donc avec la bitch dans les clips de rap. Mais surtout, on remarque que ces représentations de l'époque montrent les femmes noires comme non féminines et comme affreuses. On a donc une espèce de continuité en termes d'image. L'instrumentalisation du corps des femmes noires dans les clips, aujourd'hui, joue un rôle majeur dans la construction identitaire de la communauté, mais aussi dans la formation de subjectivité féminine noire. Par exemple, ça permet notamment aux femmes qui décident de jouer, parce qu'on a, il y a des journalistes qui ont été interviewés, des femmes qui jouent un rôle dans ces clips, on leur a dit mais pourquoi vous acceptez de vous montrer ainsi, etc. Donc là, il y a vraiment une stratégie d'ascension sociale pour elles, c'est vraiment une profession, tout simplement. Et du coup, l'équipe de rap montre des femmes noires belles, bien foutues, et permet aux hommes noirs, selon toujours Patricia et Collins, d'affirmer ainsi leur virilité, qui est mise à mal par la société discriminante. L'idée, un peu, c'est qu'avant les clips de rap, les hommes noirs étaient présentés comme dociles dans la société américaine. Et du coup, ça permet les clips de rap permettent de mettre en avant une certaine virilité. Mais selon elle, ce n'est seulement que le reflet de la société américaine où l'homme, par excellence, est un cow-boy blanc hétérosexuel. Ce qui est intéressant, c'est que se développe donc un corps noir féminin qui devient donc la norme féminine pour figurer dans les clips. Les femmes non noires le peuvent si elles répondent à certains critères précis. Et c'est là où on a une espèce d'inversion, où elles doivent avoir des fesses bombées, des fortes poitrines, etc. Dans le R&B, maintenant, en France, se performe aussi une norme féminine maghrébine qui essaie de vendre un espèce de modèle d'émancipation. Dans le contexte particulier français, en effet, le R&B serait la plateforme commerciale érigeant un modèle d'intégration réussi, celui, entre guillemets, d'une beurette, émancipée, intégrée, qui serait bien loin de l'image de la femme voilée et soumise qui pose problème depuis la fin des années 80. Ce style musical met en avant une femme maghrébine, entre guillemets, toujours, assumant sa féminité, pudique et authentique. La question de l'émancipation des femmes maghrébines va être instrumentalisée dans le R&B, notamment à travers la figure donc, de la beurette, qui est d'apparence occidentale, entre guillemets, c'est-à-dire non voilée. Elle incarne la libération sexuelle, l'ascension sociale par les études, libérée de ses traditions et de sa communauté, et en général, communauté, c'est la communauté musulmane qui pose problème, et signifie donc l'efficacité d'un modèle d'intégration français. Ainsi, dans le R&B, on remarque une forte présence de l'image de la femme qui se respecte et qui veut s'en sortir, donc... par exemple, dans la chanson de Kenza Farah, Je me bats, ou militante de Sherif Hanouna. L'exemple le plus parlant, selon moi, est la chanson de Donna de Wallen. Dans cette chanson, Wallen semble faire l'apologie de la pudeur tout en victimisant les femmes habitant dans les quartiers difficiles. Elle dit « Donna, dans la cité, se fait discrète. Elle s'efface. C'est juste la petite sœur de ses grands frères. » Alors justement, ce qui est intéressant avec cette artiste, c'est qu'elle dit dans certaines interviews qu'elle souhaite montrer que la violence faite aux femmes et les inégalités subies par les femmes ne sont pas propres aux filles de quartier et que le phénomène est visible dans d'autres classes sociales. Mais quand on écoute ces chansons, on ne voit pas. Dans la chanson de Donna, elle a un ton, disons, moralisateur et appelle à retarder les rapports sexuels. Elle dit, et pour toutes les Donna pour qui, je cite, « la pudeur devient un complexe et malgré le fait de voir le sexe banalisé », elle répond, « il ne faut pas grandir trop vite ». Une rhétorique donc de la libération est particulièrement importante dans les chansons. Dans la chanson donc de « Je me bats » de Kenza Farah, elle dit « Je me bats, j'ai l'habitude d'avancer dans l'incertitude, j'ai gardé la même attitude, je déploie mes ailes, prends mon envol. » Donc la question qui se pose, c'est « Il s'agit de se libérer de qui ?» Donc là, la victimisation des femmes de quartier s'accompagne souvent par une diabolisation des mecs de cité, entre guillemets. Là, je vous laisse regarder les travaux de Nassira Guénif, qui a fait beaucoup de choses sur ça. Par exemple, Wallen, dans sa chanson, toujours Donna, elle dit, je cite, « Donna presse le pas, mais pas assez, pour ne pas entendre. Donna, c'est qu'une, ; elle s'est fait, ; par une caille. » Donc, je vous laisse imaginer ce qu'elle ne dit pas. Donc, ce processus des victimisations des femmes n'est pas propre aux femmes dites maghrébines, simplement elle prend une résonance, selon moi, particulière et est le fruit d'une histoire coloniale, notamment en Algérie, où la culture a joué un rôle privilégié dans l'expérience impériale moderne. Deux grandes représentations de la femme indigène en Algérie existaient. Enfin, il y avait plusieurs représentations, mais je vais faire pareil que pour la période esclavagiste, schématisée. Il y avait cette figure donc, de la mauresque qui pareil, cette femme aux mœurs dites légères. Et puis, il y avait la Fatma, femme soumise, donc extrêmement pudique. Voilà. Donc, les deux figures sont représentées comme des femmes laides, qui sont mal dans leur peau et qui sont bien loin d'incarner une véritable féminité. Et la colonisation se donne pour mission de sauver cette femme indigène et en appelle successivement à son assimilation, puis à son intégration. Ce qui est intéressant, c'est que les chanteuses maghrébines vont, à travers le R&B, essayer de mettre en avant une féminité assumée, mais pas vulgaire et pas soumise. Et là, elles vont essayer de contester et un peu cette image donc, de la femme voilée soumise, mais ça me fait penser à la chanson de la gaffe, la Zoubida, qui était très populaire à l'époque, en fait. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont, elles vont affirmer, donc elles vont affirmer une certaine féminité. Dans ces mécanismes identitaires, la question qui se pose, c'est de quelle manière on peut donc parler de stratégie de défense ou de résistance à ces formes de racisme. Pour les deux cas étudiés, il existe une tentative de rétrospective historique et l'affirmation d'une culture rejetée et abandonnée. Donc se dégage le désir d'écrire une autre histoire, une autre vérité sur un style culturel qui a été dévalorisé. Le racisé introduit le scandale et va donc, notamment donc dans les clips de rap, etc., exhiber de manière agressive sa culture qui prend un aspect parfois de pureté. Or, pour Fanon, dans ce processus, je cite, « Le sens du passé devient le culte des ancêtres. Ce passé, constellation de valeurs, s'identifie alors à la vérité. Et dans cette plongée dans le passé, donc, le racisé dominé lutte contre les formes d'aliénation et d'exploitation. Et c'est à partir de cette découverte que le sujet se libère, car cette contemplation du passé est à la fois une source, mais aussi une condition de libération. » Des chanteuses, par exemple, comme Wallen et plus récemment Kenza Farah, remarquent, par exemple, l'importance des racines, l'importance de, je cite, « de savoir d'où l'on vient, surtout quand on est issu de l'immigration ». On retrouve donc cette idée de retour aux origines chez d'autres artistes, comme chez Sherif Alouna dans sa chanson « Ici ou ailleurs », où elle exprime sa fierté de ses origines algériennes. Cette logique de retour aux sources donc laisse penser à une stratégie en ayant pour but de proclamer la fierté d'un ailleurs, dénigré par le monde entre guillemets occidental. Mais ce retour aux origines permet de mettre en avant un critère vu comme important qui est l'authenticité et qui va prendre le sens entre guillemets d'une pureté, de la même manière que la femme maghrébine est souvent idéalisée, cet ailleurs dans leurs chansons est souvent mythifié aussi. Donc le retour aux origines et aux traditions passe pour le moyen permettant, comme ils disent, de rester vrai et de rester pur. Pour Kenza Farah, par exemple, son authenticité passe, dit-elle, par une référence à l'islam dans ses albums. Elle dit, je cite, « Je n'aurais pas été entière et authentique si j'omettais de parler de l'islam dans mes albums. » Même si le surgissement et l'émergence de ces cultures hérissent et laissent perplexes néanmoins ces affirmations identitaires par l'utilisation de la féminité comme stratégie de résistance, on voit qu'il y a des effets pervers, car cela renforce des identifications raciales. Ces représentations dans le R&B participent à une racialisation des Maghrébins en France, car le R&B, connoté comme étant la musique des Maghrébins, demeure un outil de divertissement d'un groupe fortement racialisé. Ce qu'ils appellent le Maghreb United, scandé dans ce style musical en France, est un communautarisme déguisé qui est culturellement, mais surtout politiquement, acceptable. C'est pourquoi il semblerait plus efficace d'analyser ces processus de libération en s'intéressant au concept de l'agency qui permet à mon sens de complexifier les enjeux et les stratégies qui se trouvent dans cette arène. Pour définir l'agency, je me suis inspirée de Saba Mahmoud qui part de l'idée de Michel Foucault sur le paradoxe de la subjectivation qui regroupe à la fois les processus et l'ensemble des conditions qui assujettissent le sujet, mais c'est aussi les moyens par lesquels le sujet acquiert une identité et une capacité d'agir. Ainsi, pour Saba Mahmoud, la capacité d'agir n'est pas un simple synonyme de résistance au rapport de domination, mais c'est plutôt l'idée de saisir la réalisation de soi et le changement comme ayant une relation étroite avec la subordination. En reprenant Butler, elle explique que le sujet produit des relations de pouvoir, qu'il se fait et se défait dans des normes, et que la capacité d'agir se trouve dans cette réitérabilité productive. De ce fait, Saba Mahmoud pense que les normes ne sont pas seulement renversées ou subverties, mais elles sont mises en acte, elles sont habitées et vécues de différentes façons. L'agency serait donc une négociation identitaire. Ce concept permet de complexifier les processus d'identification et de formation des sujets. Pour conclure, je dirais que dans ces performances de race et de genre que l'on retrouve dans d'autres domaines, il y a de la stratégie variant selon les individus guidés par des idéaux différents. Mais on peut effectivement se poser la question de quelle stratégie il s'agit ici, individuelle ou collective, En effet, on peut s'interroger sur l'impact de ces représentations d'un point de vue collectif, ce qui revient à s'interroger sur l'émancipation. De quelle libération on parle ici ? Économique, politique ? En effet, on peut se demander en quoi l'ascension sociale et économique de personnalités comme Booba ou Kenza Farah peuvent-elles avoir des effets sur l'ascension sociale d'un groupe opprimé ? Ou pour le dire autrement, je finirai par des paroles extraites du rap de Kazé, d'une chanson qui s'appelle « Pas à vendre » où elle dit « Quoi ? Moi, m'assagir, obéir aux lois d'argent sans réagir, produire du son pour pisseuses et ménagères, apparemment tu ignores à qui tu as affaire, or et saphir ne pourront pas suffire à racheter ce que j'ai souffert, et je préfère fuir le confort et kiffer mon atmosphère plutôt que de me laisser passer les fers. »
C'était une communication de Karima Ramdani, de la femme exotique claustrée au corps critique libéré, enjeux et dilemmes des figures émancipatrices dans le rap et le R&B en France. Une communication lors du colloque « Penser l'émancipation » qui s'est tenu du 19 au 22 février 2014 à l'Université Paris-Ouest Nanterre, un colloque organisé par le laboratoire Sophia Paul. L'émergence du rap français dans les années 1980 sous l'angle de l'émancipation culturelle, c'est la communication de Bettina Aguio, communication lors de ce colloque « Penser l'émancipation ». Bettina Aguio est auteure d'une thèse sur le rap français et la littérature. Elle est notamment membre de la revue Contretemps Web.
Bon, bonjour à toutes et à tous. J'ai deux précisions à faire par rapport à cette communication. La première, c'est que je vais me focaliser sur les premières productions de rap parues exactement en 1990 chez des maisons de disques importantes et nourries du contexte des années 80. Je vais donc parler du disque de Lionel D, Y'a pas de problème, et de la compilation de rap, Rap Attitude. Et la deuxième précision, c'est que je me focalise là-dessus, sur ces deux disques, parce que, à mon avis, ces productions sont précurseurs du genre rap qui va se développer en France et présente des éléments à considérer sous l'angle de l'émancipation culturelle. Début des années 80, le rap arrive en France dans l'élan de la culture hip-hop, comme une musique afro-américaine à la mode, et rapidement diffusée d'abord par quelques émissions de télévision et ensuite grâce à l'autorisation des radios libres. Mais son enracinement en France répond à mon avis non pas des seuls facteurs liés à l'industrie musicale, étudié déjà largement, notamment par le sociologue Karim Amou, mais aussi culturel et surtout politique. Il y a alors deux aspects qui m'intéressent des premières productions de rap, ayant acquis de la maturité et de la reconnaissance artistique. L'un est leur lien avec les contextes politiques et surtout son entrée dans les champs discursifs de la décennie 80, et l'autre est le travail du texte à l'aide des formes de la culture francophone existante. Je traiterai ici de ces deux aspects, mais je ne pourrai pas malheureusement m'y attarder de manière exhaustive. Il s'agira juste de lancer quelques pistes pour pouvoir les prolonger ensuite, si vous voulez, dans la discussion. Donc le rap arrive dans les années 80, l'arrivée du rap dans les années 80 coïncide avec un tournant significatif quant à la façon de parler dans les discours médiatiques et sociopolitiques de l'immigration, et surtout de la façon de s'adresser aux populations qui en sont issues. Des historiens et des analystes du discours ont signalé justement un changement des tons dans cette période où les invectives se libèrent, tant à droite comme à gauche. Les discours prennent un ton lépéniste et les champs discursifs s'épandent de dépréciation, de ridiculisation, de défis, voire même d'agressivité. Des manières de dire qui sont toutes présentées comme légitimes, pertinentes et admissibles. On désigne en linguistique par champ discursif les modalités des discours qui régissent les échanges verbaux au sein d'une communauté et à une période déterminée. Je vais employer ces termes à plusieurs reprises dans cette communication. Les exemples de ces champs discursifs peints de dépréciation et d'agressivité sont très nombreux. Je vais en donner rapidement quelques exemples. Par exemple, dans les journaux officiels de l'époque, le long de la décennie 80, On pouvait lire des titres marqués par un fort discours d'altérité, comme par exemple « Les Maghrébins et les autres » ou « Serons-nous encore français dans 30 ans ?» De la part des hommes politiques, également, il y a eu des choses qui ont été dites très très agressives envers les populations issues de l'immigration, comme par exemple Jacques Chirac, qui désignait l'immigration de l'époque de la plus mauvaise qualité. Il disait que c'était de la plus mauvaise qualité. Et Chirac et d'autres hommes politiques aussi disaient que, par exemple, Jean-Marie Le Pen proposait les bonnes choses, mais un peu mieux que tous les hommes politiques, un peu plus fort qu'il osait les dire. Et on connaît tous, j'imagine, la phrase de Jacques Chirac qu'il a tenue à l'encontre des populations issues de l'immigration sur les bruits et l'odeur, faisant comprendre que ces populations étaient bruyantes et malodorantes par rapport à la normalité du blanc européen. François Mitterrand également a dit des choses, il était président à l'époque, il a dit des choses comme que le seuil de la tolérance vis-à-vis les immigrants était largement atteint. Et je peux également évoquer le même Jean-Marie Le Pen, par exemple dans une diatribe plus qu'un discours qu'il a eu à l'égard de ceux qu'il appelait les jeunes beurs arrogants. Ces discours, il était très marqué par un contraste entre nous les Français et vous les étrangers, les immigrés. Donc bref, tous ces discours et ces petites phrases assassines, si on peut dire, ont diffusé des façons de dire selon les modèles de l'affrontement et de la diatribe. Il est courant de dire que le rap exprime une révolte. Je vais essayer de montrer comment, dans ces contextes conflictuels des années 80, le rap a pris en main la riposte de ces discours d'une façon que les pratiques culturelles de l'époque n'ont pas fait. Donc, les pratiques culturelles qui occupaient les jeunes issus de l'immigration dans les années 80 étaient notamment le rock, la musique rock ou le rock alternatif, et les théâtres, connus ces derniers comme le théâtre beurre ou le théâtre de l'immigration. Il s'agissait de petites troupes composées la plupart d'adolescents et d'adolescentes, parce que la plupart c'était des filles, et d'origine maghrébine, qui se produisaient un petit peu partout dans les quartiers populaires en France. Et donc, jusqu'alors, c'était voilà, ils n'avaient pas eu... Voilà, ça restait dans les quartiers populaires, mais il y a eu quand même une présentation au Centre Pompidou, fin des années 80, de ces théâtres, et qui, voilà, pour qu'un public plus large puisse avoir accès. Donc, jusqu'alors, ces pratiques visaient notamment à montrer et à dénoncer la situation sociale des jeunes, comme le théâtre qui était décrit à l'époque par les mêmes termes qu'on employera plus tard pour qualifier les rap. On les considérait comme les porte-parole de la banlieue, car ils portaient les témoignages du mal-vivre. Mais à partir de la répétition de ces discours dépréciatifs, qui se sont multipliés jusqu'à l'aube des années 90, l'expression culturelle de ces jeunes va prendre un ton plus offensif. On connaît par exemple les cas du groupe Carte de Séjour, du groupe Rock, et qui va reprendre la chanson des Charges Trenet, 12 France, en 1986, juste au moment de la loi Bonnet, qui rendait plus difficiles les conditions d'entrée et de séjour des immigrés. Donc, ces ripostes prendra une ampleur majeure avec les rap, qui après les premiers morceaux autoproduits dans les années 80, s'installera définitivement dans les paysages culturels hexagonaux dans les années 90. Donc, je propose maintenant de m'arrêter sur l'un de deux disques officiels de rap paru exactement en 1990, Il n'y a pas de problème, du rappeur Lionel D. Ce disque est un produit thématique issu des préoccupations politiques des années 80 à propos du thème de l'immigration. Plusieurs morceaux de ce disque sont une réplique habile et vive au discours raciste de l'époque et l'on le ressent déjà par les noms des titres des morceaux. Par exemple, il y en a un qui s'intitule « Les années 80 », un autre « Pour toi, mon frère, les beurs »,« Pour toi, les beurs », et la lettre adressée à M. Mitterrand et, qui s'intitule « Monsieur le Président ». Donc, je propose d'écouter un extrait de « Pour toi, les beurs », dont le titre initial était « Pour toi, mon frère, le beurre ». Il suit de surcroît la tradition du rock alternatif de l'époque, car il présente des sonorités arabisantes.
Il faut toujours que ton nom rime avec galère, qu'on le confonde avec le mauvais sans cette drôle de terre. Ceci n'est pas pessimiste, mais juste réaliste. Un méfait commis quelque part, il y a ton nom sur la liste de ceux qu'on accuse, paria d'une société qui se dit démocrate et fière de toutes ses libertés. Il y a des droits qu'on donne et ceux qu'on distribue. L'hypocrisie en est évidente, je sais que tu l'as vu. On te dit fermé ou trop dur, mentalité à part. Voleur, frappeur, flambeur, sonar, ces adjectifs maudits que tu connais par cœur. Je voudrais t'en voir le contraire pour toi, mon frère, le beurre. Au fond de toi, la vérité parle avec ton âme. Des pages du Coran d'une religion qu'on appelle islam. Un monde de flics, de frites, de putes, de stupes. L'habitat d'un béton qui pue la sup. Un sang de Kevin coule en toi, il devient le ton père qu'on a pris pour construire la France en récompense la misère d'un appartement, d'un loyer. Dur à payer, tu as grandi en voyant tout ça, tu es trop dégoûté. On te bastonne, on te cartonne. Tes papiers sont la proie de tous ces uniformes. Mais tout ça va changer, ils vont s'apercevoir que ton nom est à respecter, un peuple et une histoire. Sais-tu pourquoi j'écris tout ça? C'est parce que je me rappelle le mec bloqué que j'étais pour qui la vie n'était pas belle. Tu m'as remonté le moral, remis en forme, explosant mon cerveau de mots qui firent de moi un homme. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas mais qui se font. Je t'en prie, crois en toi, monte le son. Dieu t'aide à supporter ces abrutis qui te désignent. Ils sont jaloux ou bien gênés, y aurait-il comme un signe? Une réflexion s'impose, messieurs, dames, je vous dis, ces êtres sont humains, ils doivent en être ainsi. Je vous parle de fraternité, je vous agresse. Ras-le-bol de toutes ces étiquettes, il faut que cela cesse. Le premier pas ne coûte pas cher, révolution, chaleur, pour tout ce qu'on appelle les peurs. Je vous dédie ce rap, écrit en une seule fois. Une colère m'est venue un soir, qui te donne ça?
Alors, ce morceau s'organise autour de la deuxième personne du singulier et implique et détermine un auditeur d'origine maghrébine comme destinataire, dont Lionel D se montre sensible du racisme dont il est victime. On peut dire que ce morceau constitue un dialogue complice avec des pères, dont je cite « On t'a dit fermé, ou trop dur mental à part, voleur, frappeur, flambeur, zonard, ces adjectifs m'ont dit que tu connais par cœur, je voudrais t'en voir le contraire, pour toi, mon frère le beurre. » Mais en même temps, ces morceaux s'introduisent dans les champs discursifs propres de la période parce qu'il apostrophe le responsable direct de ce racisme. Je cite un autre extrait. À un moment, Lionel dit « Chez vous parle de fraternité, chez vous ça agresse. Ras-le-bol de toutes ces étiquettes, il faut que cela cesse. » Donc, nous ne sommes pas ici face à une discussion calme et sereine, mais au contraire, on voit déjà se reproduire les modèles de l'agression verbale des discours sociopolitiques, ce que Lionel dit exprime d'ailleurs en toute transparence quand il dit « je vous agresse ». Quoique face à la violence de ces discours, la réaction verbale de Lionel D reste très timide. On peut également apprécier ces mouvements de défi dans les morceaux des années 80 qui parlent aussi du racisme omniprésent et de ces années-là. Donc je cite un morceau. « Car humain de ce monde permettait, si je ose, demander la raison d'une certaine chose. Est-ce que les couleurs ont une raison d'être ? Pour certains, c'est sûr, mais pour d'autres, peut-être. Alors, arrête les baratins et tes illusions. Certains se croient supérieurs pour d'étranges raisons. Que l'on juge un homme parce que sa peau est noire, allez donc après me parler de savoir. Parce qu'il y a des racistes au corps bien trop froid, bouffés par l'orgueil de se croire des rois, prétentieux, bidons à la mauvaise couronne, les années 80 m'étonnent. » Donc, les propos, l'apostrophe et les questionnements, ainsi les questions rhétoriques, s'adresse de toute évidence à tous ceux qui soutiennent les thèses lepénistes, voire à Le Pen en personne. Comme en rendre compte l'expression, justement, « arrête les baratins » ou « allez donc après me parler des savoirs ». Nous pouvons observer la même chose dans les morceaux « Monsieur le Président » qui investit également les champs discursifs, mais cette fois-ci par la forme épistolaire qui lui confère une structure discursive plus transparente. Forme étudiée, forme dans les rap, forme propre à plusieurs morceaux de rap, étudié déjà par le sociologue Anthony Pecker. Lionel D décide de s'adresser directement à François Mitterrand, l'interpellant par l'incipit « Monsieur le Président, je m'adresse à vous », en lui exigeant des explications sur les dérives de sa politique. Nous pouvons par ailleurs apprécier la portée épique de ces morceaux quand Lionel D rappe au nom d'un émetteur collectif et emploie alors la première personne du pluriel, je cite « C'est ça votre affaire, Monsieur le Président, n'oubliez pas que c'est la nôtre aussi, c'est maintenant. » Donc nous voyons par quels moyens ces morceaux de rap investissent non seulement la scène culturelle du tournant des années 90, mais aussi et surtout les champs discursifs de la période. Dans la deuxième moitié des années 80, d'autres morceaux de rap l'avaient déjà commencé à faire, comme par exemple les morceaux de Dynasty en 1984, Panam City Rapine, considéré comme le premier morceau de rap français, qui parle de Paris en parlant de la banlieue, du chômage, de la situation des immigrés et du rap comme prise de parole. Il y a aussi EJM, 1989, dans les morceaux Nous vivons tous, qui aborde le thème de la violence de l'État et dénonce surtout les monopoles de la parole par les nous français, entraînant les immigrés au mutisme. Je cite, tu n'as rien à dire, car tu n'es qu'un immigré. Mais à partir du disque de Lionel D, le champ discursif s'est investi par le rap de façon définitive et ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. Et non seulement par les rap indépendants et officiellement contestataires. Rappelons-nous de tous ces morceaux qui n'ont jamais cessé d'apostropher les institutions policières et de répondre aux discours racistes et sécuritaires des gouvernements dans les années 90 et 2000. Les morceaux de Lionel D ont aussi une forme d'échange et d'apostrophe qui demeurera dans les rap au pluriel, avec des variables bien sûr, selon les différents styles des artistes. C'est qu'Anthony Pequeux, sociologue et spécialiste du rap, appelle la logique du face-à-face, le rapprochement entre les rappeurs et l'auditeur, comme si un échange verbal avait vraiment lieu. Mais cet échange, ou face-à-face, peut être considéré également, pas seulement comme le seul dialogue entre des pairs, c'est-à-dire un rappeur qui s'adresse à son auditeur, qui écoute le rap, mais aussi sous-entendu avec les représentants étatiques, ou les dominants, ceux qui dominent le discours. Dans cette logique du face-à-face, verbal, le rap répond au discours des dominants avec la même forme d'échange qu'ils ont proposé. Il est courant de dire que le rap est un civil. Le sociologue Patrick Farreau peut, possiblement, rejeter cet argument quand il montre que quand les discours des dominants sont violents et inadmissibles, les conflits éclatent et reste alors très peu de place dans la réponse qu'y donnent les citoyens, qui peut être par les mouvements sociaux, mais aussi par des manifestations culturelles, donc il reste très peu de place pour la civilité. L'émergence du rap en tant que pratique culturelle coïncide avec les besoins de riposter au discours raciste de l'époque. Les discours politiques des années 80 ouvrent des hostilités, créent une zone de conflict, où les échanges tendent à se construire avec la même ou les mêmes tons de violence. Par exemple, les propos de Jacques Chirac qu'il a eus sur le bruit et l'odeur au tournant des années 90, et ont inspiré de nombreuses réponses dans le rap. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a plusieurs morceaux. Par exemple, en 91, et dans la deuxième compilation de Rap Attitude, le groupe Côté Obscur dit « Faire au passage un bras d'honneur à Jacques Chirac et à ses mauvaises odeurs ». NTM, en 95, affirme combattre tous ceux dérangés par les bruits et l'odeur. Le rappeur Monsieur dans les 2000, et rappelle ses propos de Jacques Chirac quand il dit « Pour les voisins d'en face, tu n'es qu'une sale race. Tes bruits et tes odeurs dérangent. » Et bon, voilà, il y en a d'autres. Booba aussi, dit par son rap, représenter les bruits et l'odeur. Or, en plus d'investir les champs discursifs par la parole, ces morceaux de rap sont, à mon avis, intéressants par la façon dont les textes sont composés. Si nous reprenons les textes pour toi, le beurre, nous pouvons apprécier les rimes à la fin des vers qui répondent un peu timidement, à des modèles classiques et canoniques de la poésie française, ou de l'écriture poétique française. Donc je cite, « Il faut toujours que ton nom rime avec galère, que l'on les confonde avec les mauvais côtés sur ces drôles de terre. Ceci n'est pas pessimiste, mais juste réaliste, à mes faits comme il quelque part, et il y a ton nom sur la liste. » Ces rimes, qui sont considérées en étude poétique plate ou suivie, indiquent la cohérence sonique et rythmique recherché par l'auteur, et un travail poétique qui engage une réflexion sur la langue au-delà du simple contenu des mots. De plus, le modèle de départ de ces vers semble bien être l'alexandrin. Donc. D'autre part, une série d'éléments mettent en évidence, dans les textes de Lionel D, les choix quasi exclusifs qu'il fait de la rime pour structurer son texte. Par exemple, dans les morceaux « Les années 80 », il ne s'agit pas juste d'évoquer les contextes socio-historiques et historiques de son époque, mais de le rapper et de les rimer. Donc je cite, « Je rime et je rappe le temps, c'est la folie, mon univers, c'est lui pour, et ceci pour très longtemps. Les années 80 m'inspirent l'odeur de ces décors. » L'auteur délimite ainsi la frontière entre un usage général ou ordinaire de la langue et son usage poétique. Cette démarche me fait penser, curieusement, à la conviction des poètes eux-mêmes sur les langages poétiques, comme Paul Valéry, pour qui l'emploi poétique de la langue se meut dans un système bien distant de celui de la langue de tous les jours, ou par exemple pour Paul Claudel, et pour qui la poésie se sert des mots de tous les jours qui ne sont point les mêmes. Cet usage de la rime de Lionel Dee, fut-il timide chanciste, révèle son intention artistique d'explorer les ressources de la langue pour évoquer les thèmes de son époque. Il insiste par ailleurs dans son autre morceau, les années 80, des rimes et puis du rap, montrant ainsi que le rap résulte pour lui, au moins en partie, du travail de la rime. D'autre part, Lionel Dee revendique son rôle de poète comme un rimeur, mais aussi comme un être d'exception. Ce qui rappelle, étrangement, curieusement, la définition des poètes eux-mêmes, comme par exemple Ronsard, un poète du VIe siècle, pour qui la poésie était un devoir moral dans la mesure où elle relève d'une véritable mission. Pour ce dernier, un poète était comme un prophète, un initié, un mage inspiré. Pour Lionel Dee, sa démarche poétique présuppose aussi un devoir social et politique. Donc je cite, « Pour toi, mon frère le beurre, et le métier rapport que je suis connaît bien son devoir, celui de dénoncer, de crier sur cette injustice, portrait triste d'une société d'égoïstes. » Donc il s'attribue un rôle de poète-orateur qui s'engage envers ses auditeurs à rapper pour rendre compte de la réalité qu'il entoure, comme il insiste également dans un autre morceau qui s'intitule curieusement « Rappeur ». Et donc je ne vais, pas tous les lire, mais je dis juste les débuts. « Je passe mon temps à rêver, plein d'espoir et d'illusions. J'ai fait de mon mieux, je suis sincère, un peu comme une mission. » Donc nous voyons là clairement les mots « mission ». Donc en plus, nous voyons ici apparaître l'image classique onirique du poète rêveur, qui associe des idées, des images, tout comme l'évocation de la rime en tant que structure formelle du rap et de la maîtrise virtuose des mots. Donc cet aspect autoréférentiel, si on peut dire, du rap, c'est-à-dire le rap qui parle de la façon dont il est construit, et du rôle du rappeur en plus, est également perceptible dans la première compilation de rap, Rap Attitude, et contemporaine au disque de Lionel Dee, comme je l'ai dit, mais surtout dans deux morceaux. L'un, c'est la formule secrète du groupe Assassin, et l'autre, c'est les morceaux G-Rap de Supreme Anthem, donc les deux groupes les plus connus de cette compilation. Et donc, ces deux morceaux tournent autour des attributs poétiques que les rappeurs associent à leur texte. Le premier, la formule secrète, insiste sur les caractères magiques des rimes, en comparant la poésie du rap à une potion magique qui pénètre les esprits. Et le deuxième, G-Rap, s'attache à son aspect ludique, semblable même au jeu d'enfant.
Évitons toute erreur, j'attaque avec saveur, fêtant l'auditeur, le touchant en plein cœur, je coupe l'argument, le structure largement, je rappe, expliquant à chacun que ce domaine est le mien, car je baisais bien sur les aléas du tempo, oui, sans aucun affront, normal pour un pro. Je m'introduis, frôlant l'exploit de par ma voix, mon rap t'assomme, mes rimes te donnent la cadence, pour entrer dans la danse, sans pour autant te sentir étouffé par ma prestance, ni par ma prestation, car je fais un carton, et tout mon lyrics enregistre la leçon, ça semble clair, limpide, facile à faire, mais tout est étudié, chaque parole est dosée, pesée, pour renforcer, rehausser la qualité de mon phrasé, n'est-ce pas Joey?
Sans problème, chaîne, je reprends,
adaptant l'élément, contrôlant, dominant la prose, elle brille, débris dans son degré, arrachant chaque effet, la dégustant tel un mets. Ma bouche gronde, dire chose oui, j'ose plus fausse. Je joue, roule, danse, passe avec les phrases. Je rap. Relancé par le flow, j'instaure la prose. Prose, symphonie de rime. Vous sentez avec prestance la qualité des mots, oui, des mots qui orchestrent ma musique. J'avance invariablement, expliquant à chacun que mon délire est le rap.
Donc, il est intéressant de voir que ces deux morceaux disent de l'esthétique du rap est la même chose que les spécialistes de la poésie disent de l'art poétique. Par exemple, la poésie a été définie par ses liens étroits avec l'inconscient et rapprochée aussi à l'enfance, d'une part, et au rêve, d'autre part. Le travail fait sur les mots en poésie rappelle les premiers contacts qu'il y a l'enfant avec les langages, c'est-à-dire ces premiers contacts de prononcer, de maîtriser, d'énoncer, de répéter. En même temps, la poésie partage avec les rêves la possibilité d'un certain écart entre les mondes réels et les mondes magiques ou imaginaires, établissant ainsi un contact avec, entre la vie et les choses cachées. Ainsi, ces deux aspects perceptibles dans les premiers morceaux de rap, c'est-à-dire l'effet d'investir le champ discursif et la portée poétique qu'il revendique, montrent que le rap s'est consolidé en France en tant qu'un genre musico-verbal sous l'angle de l'émancipation culturelle et à partir d'un besoin de représenter par la parole et de l'investir, qui était latent depuis les pratiques culturelles des jeunes beurs et des quartiers tout au long de la décennie 80. Pourquoi sous l'angle de l'émancipation? Parce que ces deux facteurs produisent une double mise en crise de l'ordre normal de la domination, où, selon la théorie politique de Jean Rancière, il renverse les systèmes d'évidence sensible des places distribuées dans la communauté. Rappelons-nous que pour Jean Rancière, les sans-parts existent dans un univers étranger au monde du discours, de l'action et de la visibilité commune. Ils n'investissent pas les langages car leur expression langagière est entendue par les dominants comme du bruit et des grognements. Pensons à ces propos, les propos qu'a eu Jacques Chirac sur les étrangers qui parlaient justement du bruit. Ils font du bruit. Les rap du tournant des années 80 interrompent la destinée du mutisme par son entrée tonitruante dans le champ discursif en apostrophant les dominants. Il réussit même l'impensable. Il amène la parole des habituels non entendus dans les cadres de l'industrie culturelle. D'un autre côté, il revendique une originalité esthétique tout en s'appropriant des formes de la langue réservées notamment à la parole cultivée. Donc cette attitude me rappelle l'attitude des ouvriers du 19e siècle étudiée par Jean Rancière, qui par la production artistique s'est refusé à rester dans l'identité des travailleurs physiques qu'on leur avait attribué. Ces ouvriers ne faisaient pas des chansons populaires, comme on aurait pu s'attendre, mais utilisaient volontiers les alexandrins et d'autres formes poétiques de la haute culture. Rancière considère que ces ouvriers instauraient par là des moments d'égalité et que leur production devenait ainsi des objets émancipés. C'est un peu la question que je veux poser à propos du rap.
Merci beaucoup. Merci.
C'était une communication de Bettina Guillot, l'émergence du rap français dans les années 80 sous l'angle de l'émancipation culturelle. Une communication donnée lors du colloque Penser l'émancipation qui s'est tenu du 19 au 22 février 2014 à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Un colloque organisé entre autres par le laboratoire Sophia Paul. Pour retrouver toutes les communications de ce colloque Penser l'émancipation, un site internet penserlemancipation.net. Et pour réécouter cette émission ainsi que les autres émissions de ce week-end hip-hop, rendez-vous sur le site internet de La Grenouille, radiogrenouille.com.
Give him two lips like rose.
Marseille Hip Hop 2014, état des lieux.
Samedi 1er et dimanche 2 mars,
un week-end hip-hop sur les 3-8.
Plus d'infos sur le www.radiogrenouille.com.